J'aimerais qu'on avance un petit peu. Je ne sais si vous avez...
Vous voulez sortir de la cour de récré?
Oui, on va sortir. Alors, je ne sais pas si on va sortir de la cour de récré, en l'occurrence. Je ne sais pas si vous avez suivi ce soir les prises de parole de Jean-Luc Mélenchon, qui donnait un meeting à Brest. Le leader insoumis qui s'est exprimé sur un certain nombre de sujets et qui est toujours très remonté sur la polémique autour de l'affiche de la France insoumise caricaturant Cyril Hanouna et jugé antisémite. Écoutez sa réponse.
Dont on a saccagé la maison, c'est nous qui sommes les racistes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh, parce que j'ai dit, ça suffit sur un plateau de télé, parce que j'en avais jusque-là. Et comprenez-moi bien, regardez le vice de ces gens. Oui, il y a peut-être une allusion, comme ils sont complètement obsédés, qu'ils ont à la maison les collections d'affiches d'extrême droite que leur avaient laissées leurs grands-parents. Ils les regardent tous les cinq minutes. Là, celle-là, je la connais. Pas de bol, nous, on n'a pas ces affiches. On n'est pas au courant. On ne sait pas. D'accord? 7 jours, ça a duré. Ça fait 7 jours qu'ils nous cassent les pieds avec un visuel qui n'est plus aujourd'hui diffusé que par l'extrême droite et les journalistes. Ils se repaissent du délice de voir si quelqu'un ne voudrait pas avouer. Il avouerait, on pourrait le punir, et ensuite on chercherait ses complices qui, eux aussi, auraient droit à la poussette, à la question ordinaire et peut-être même à l'extraordinaire pour que de nouveaux aveux viennent nourrir le dossier. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle les médias.
Alors, je sais que vous avez tous envie de réagir. Je vais tous vous donner la parole dans un instant sur le fond. Mais avant, juste sur la forme, Franck Boisy, vous êtes en train de me dire... Ça, c'est le body language.
L'expression corporelle, pour employer.
J'allais dire Emmanuel Macron, pas du tout, de Jean-Luc Mélenchon, est intéressant.
Oui, c'est assez intéressant parce qu'on le voit bouger d'une manière assez... Il n'est pas serein derrière son pupitre, quoi. Et la manière dont il a de se contorsionner quand il développe son argumentaire, est-ce que ça ne laisserait pas quand même penser qu'il est finalement... et au plus profond de lui-même, assez mal à l'aise face à cette situation.
Mm-hmm. Philippe Vigier, il n'avait pas la référence, Jean-Luc Mélenchon?
Non, je partage votre analyse, je le trouve fébrile.
Non, mais c'est ce qu'il dit, Jean-Luc Mélenchon. Il dit, voilà, on n'a pas tous la référence, on n'a pas tous des manuels d'histoire chez nous.
Mélenchon, on sait comment il fonctionne. Quand il est acculé, là, il est dans les cordes, comme il l'est souvent, incontrôlable. D'ailleurs, vous savez que les nombreuses voix sont élevées à l'intérieur des Insoumis pour critiquer cette affiche. Et c'est lui qui a validé quoi qu'il arrive. Simplement, le pas vu, pas pris, c'est pas vrai. C'est intentionnel. C'est une stratégie de Mélenchon. Cette stratégie, il la pousse jusqu'à l'extrême. Et il essaye, au travers des militants, de prendre des témoins pour se conforter. Mais il est fragilisé.
Roselyne ?
Il aggrave son cas. Cette affaire aurait pu se dénouer en un quart d'heure. Hein. L'affiche était une erreur. Elle a peut-être été générée par un communicant qui, effectivement, ne connaît pas l'histoire des affiches antisémites, comme d'ailleurs 95% des Français. Et il y avait une énorme faute qui avait été commise.
Ce qui a été reconnu, d'ailleurs, par ses lieutenants,
voilà,
par Manuel Bompard, par
Mathieu Lepanot. Il y a une faute, cette affiche est intolérable. D'ailleurs, nous faisons une enquête interne, etc. Un quart d'heure après, on n'en parlait plus de cette affaire-là. Et donc, c'est lui-même qui crée le malaise dans ses troupes et qui utilise des arguments qui sont absolument insoutenables. De dire que les gens qui condamnent cette affiche ont des grands-parents qui ont stocké des affiches antisémites chez eux. Moi, je condamne cette affiche. Je suis la fille de deux résistants, d'une grand-mère qui a caché des juifs dans son grenier. Enfin, mais comment ose-t-on me dire à moi ça? Mais c'est infect! C'est dégueulasse ce qu'il fait, Mélenchon.
Ce qu'il dit, il va plus loin. Il dit que ce visuel, il a été retiré sans reconnaître une erreur, comme l'ont fait ses lieutenants Manuel Bompard et Mathilde Panot. Il dit il n'y a plus que l'extrême droite, il n'y a plus que les journalistes qui en parlent encore. Est-ce qu'en l'occurrence, pour répondre à ce qu'il dit, Anna, je vais vous donner la parole, Charles, dans un instant, est-ce qu'on en fait trop autour de cette polémique? C'est ce qu'il dit ce soir.
Mais il faut pas rentrer là, faut pas rentrer dans son jeu. Je veux dire, je trouve que sur ce sujet, je sais pas si vous avez vu le tweet de Clémentine Autain, c'était dimanche soir, et je trouve que tout est dit. Alors évidemment, elle en parle.
Bah, toute la gauche s'est désolidarisée.
Toute gauche, mais Clémentine Autain, comme on sait, je veux dire, elle a été, voilà, c'est une rebelle. C'est-à-dire qu'elle s'est rebellée précisément contre l'impérium de Jean-Luc Mélenchon, mais elle le fait sur ce sujet avec des mots très clairs. Elle dit quand on on est de gauche et que l'on veut combattre l'extrême droite, on est irréprochable dans la lutte contre l'antisémitisme, on ne charrie jamais son imaginaire. Et si on faillit par ignorance ou par méprise, on le reconnaît et ensuite on fait mieux. C'est, voilà, et quand même c'est quelque chose d'important parce qu'elle dit, quand on est de gauche et qu'on veut combattre l'extrême droite, on n'intimide pas et on n'insulte pas un journaliste pour une question qui se pose. Ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon dimanche.
C'est le confrère de France 3,
absolument.
Il a dit, vous n'avez pas posé cette question.
Et quand, et oui, et il dit, mais ça suffit en se mettant à rugir. Et donc, écrit-elle à la fin, et quand on est un grand leader, on a une responsabilité dans la formation politique, notamment des nouvelles générations, fermer les guillemets. Je pense que là, on voit qu'au fond, Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai que sa gestuelle le dit, c'est-à-dire qu'en fait, il est emberlificoté autour de son sujet, il ne sait pas comment
vous
le prendre.
Très fébrile aussi, ce que disait Philippe Vigier dans cette vidéo.
Je dirais pas fébrile, je dirais qu'il cherche, il cherche le biais, il le cherche de toutes les façons, c'est-à-dire qu'il cherche à contourner le sujet, à le prendre dans tous les sens, pour ne pas dire la seule chose qui peut être dite sur ce sujet, c'est une erreur. C'est une erreur, point barre à la ligne. Mais pour ne pas avoir à dire ça, au fond, il se contorsionne dans tous les sens. Et je trouve qu'il y a, quelque chose d'assez, d'assez pathétique, au fond, à en arriver là. Et pathétique, ce serait, si c'était que ça, ce serait pas grave. Mais en plus, c'est sur un sujet où Jean-Luc Mélenchon, on peut pas le soupçonner de ne pas avoir de culture. On peut pas le soupçonner ni de méprise, ni d'inculture. Et là, ça veut dire que c'est vertigineux de cynisme politique.
Voilà. Charles, vous êtes avocat.
Oui.
Je vais vous demander de jouer les avocats de la défense.
Dites-moi.
Ce soir.
Oui, pour Mélenchon. Non, mais je pense que...
Ah, il est avocat, c'est son métier.
Je pense que je pourrais tout à fait être l'avocat de Mélenchon. C'est un dossier que je ne refuserais pas.
Alors, allez-y.
Je pense que vous sous-estimez son sens politique. Moi, je pense qu'il fait du Steve Bannon. Steve Bannon a expliqué que pour faire gagner Trump et autres candidats de ce genre, il fallait arrêter de considérer comme opposants ses opposants politiques, il fallait prendre comme opposants les médias, les journalistes, etc. Parce que les peuples... qui sont dans une dynamique de dégagisme, eh bien, dans le dégagisme, il y a aussi les médias considérés comme une caste. Et donc, pourquoi est-ce que Mélenchon s'en prend très régulièrement aux journalistes, que ce soit physiquement face à ce pauvre présentateur de France 3, journaliste de France 3.
Qui s'est magnifiquement sorti de cette situation, présentateur de France 3, en l'occurrence.
Parce que Mélenchon n'est pas non plus un adversaire. Bon, et où là, dans son meeting, c'est parce que je pense qu'il surfe sur une certaine détestation de ce que lui package dans tout un système, en fait. Et donc, dans le système, il va mettre à la fois ses opposants politiques, il va mettre les journalistes, il va en faire un ensemble et il va se dresser, lui, tout seul, contre ce système. Et la population, ses électeurs, vont se reconnaître là-dedans et identifier en lui celui qui...
Après, il va faire fuir aussi toute une partie des électeurs, et c'est précisément ce que lui reproche le reste de la gauche.
Mais le reste de la gauche n'a pas d'électeurs. Il faut voir la réalité, c'est-à-dire que Madame Autain qui dit oui, lutter contre l'extrême droite, etc. Depuis que ces gens luttent contre l'extrême droite est à 46% dans notre pays. Je suis désolé, le Parti Socialiste n'a pas d'électeurs aujourd'hui. Il n'arrive pas à émerger. Personne n'imprime médiatiquement. Quand je vois le congrès du PS, pardon, mais ça me fait rigoler.
Enfin, Jean-Luc Mélenchon, s'il a des ambitions présidentielles, en tout cas s'il a des ambitions électorales pour les Insoumis, c'est très bien qu'il n'y arrivera pas seul, qu'il a besoin de cette alliance de la gauche. Est-ce qu'avec cette attitude-là,
parce
aujourd'hui...
Parce que son attitude, pour moi, il est trumpien, ce personnage, honnêtement.
Oui.
Et ça n'est pas, dans ma bouche, une insulte. Je pense qu'il cherche la qualification au second tour. Et s'il est au second tour, je vous dis pas qu'il peut y arriver, hein, mais s'il est au second tour, ils se rallieront à lui. Imaginez, demain, un second tour.
Vous imaginez une seule seconde les socialistes, après ce qui s'est passé, se rallier de nouveau aux Insoumis?
Imaginez un instant, un second tour, Mélenchon-Le Pen. Mais tous les socialistes les mieux peignés se mettent derrière Mélenchon. Mais
vous allez nous donner votre avis dans un instant.
Encore au second tour, Franck, après l'histoire de cette affiche.
Franck, je vais vous donner la parole dans un instant, mais j'aimerais juste qu'on rejoigne notre envoyé spécial qui nous attend du côté de Brest. Edgar Becquet, vous avez suivi ce meeting de Jean-Luc Mélenchon, un Jean-Luc Mélenchon qui a été très, très offensif à tous les niveaux ce soir.
Oui, exactement. Un meeting qui a duré un peu plus de deux heures avec comme thématique principale la lutte contre l'extrême droite et contre le racisme. Et ce soir, tout le monde, presque tout le monde, en a pris pour son grade, à commencer par Bruno Retailleau. Jean-Luc Mélenchon est revenu sur la menace de démission du ministre de l'Intérieur formulée ce week-end. Et sa réponse, eh bien, c'est Retailleau a dit « je vais m'en aller ». Eh ben, vas-y, il y en aura bien un aussi bête que toi. Jean-Luc Mélenchon a aussi évoqué la situation entre la France et l'Algérie. Il dénonce ce bras de fer entre la France et l'Algérie. Toujours à propos de Bruno Retailleau, il dit « ce n'est pas à lui de faire le boulot, c'est au ministre des Affaires étrangères. Le temps de la colonie est terminé, on ne donne plus d'ordre aux autres ». Il a également réagi à ce débat autour du port du voile dans les compétitions sportives. Un seul but, créer de la haine, de la méfiance et du sexisme. Voilà ce que dit ce soir Jean-Luc Mélenchon au cours de son meeting à Brest. Et il y a quelques instants, je vous entendais parler de ces alliances à gauche. Et Jean-Luc Mélenchon en a profité aussi pour adresser quelques tacles à ses partenaires du Nouveau Front Populaire, ses partenaires socialistes. Il dit ce soir à propos des socialistes, vous nous avez menti, vous nous avez trompé. Jean-Luc Mélenchon qui leur en veut toujours de ne pas avoir voté la motion de censure.
Merci Edgar Becquet et merci à Bruno Ferraud qui était avec vous. Anna, je vous entendais réagir sur ces propos sur Bruno Retailleau. Vous étiez en train de dire c'est la cour de récré qui continue.
Non, mais là, il nous a habitués à plus de verve que ça. Jean-Luc Mélenchon, plus de talent oratoire. Je veux dire, c'est non seulement c'est de la cour de récré, mais c'est plat, c'est assez facile et c'est pas du niveau de Jean-Luc Mélenchon. Vous validez, monsieur Vigier.
Je confirme, le Mélenchon que je voyais à la tribune de l'Assemblée était quand même beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus percutant qu'il ne l'est. On voit là, il est quelque part dans ses retranchements, il voit bien qu'en fait, il mise une seule chose, essayer de récupérer son électorat, et il pense que comme cela, il gagnera par rapport à l'électorat du Parti Socialiste ou du reste de la gauche. Ça reste à prouver. Moi, je vois qu'au travers de ces troupes, il y a des fissures qui se créent. Alors, évidemment, c'est le chef, c'est terrible. Mmh. On sait que très bien, on s'aligne ou alors on est dehors. Madame Autain le sait, d'autres ont été virés manu militari. Mais il va se redire et continuera de se redire.
On avait Alexis Corbière qui était notre invité cette semaine, Franck Boisise, et qui nous disait voilà, je me désolidarise totalement avec ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, il fait plus de mal à la gauche qu'autre chose, mais on ne peut pas se permettre le luxe de se diviser. Quoi qu'il arrive, il faut rester unis et il faut qu'il revienne à la raison d'une certaine façon.
Sur ce même plateau, il disait également, si je me souviens bien, Perrine, qu'il n'était plus en mesure de réunir la gauche. C'est-à-dire que il l'avait déjà dans son propos sorti du jeu.
Bah, il lui disait voilà, c'est Jean-Luc Mélenchon, en gros, retire-toi pour le bien de la gauche. Et d'ailleurs, Roselyne avait rebondi en disant votre message,
j'ai pas osé utiliser le casse-toi, ce qui a déjà été malencontreusement proféré. Donc,
non mais. mais c'était effectivement son message à Alexis Corbière, c'était de dire il va falloir se mettre en retrait.
Sors du jeu parce que effectivement aujourd'hui, tu es plus nocif pour l'intégrité de la gauche que tu ne pourrais lui apporter quelque chose.
Tu dois partir car tu nous plombes. C'est ça qui
discours qui n'était pas quand même entendu jusqu'à présent de manière aussi nette et sans ambiguïté.
Mm-hmm. Roselyne.
C'est-à-dire que là, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, elle pose question. Je rebondis sur ce que disait Charles Consigny. Est-ce que c'est trumpien ? Il y a quand même une culture politique vraiment fondamentalement différente en France et aux États-Unis ou dans certains autres pays qui pratiquent la démocratie libérale, ce que je trouve d'ailleurs une sorte d'oxymore qui n'a pas beaucoup de sens. Mais là, il y a une culture politique. C'est pas pour rien aussi que la France est un pays qui réfute profondément l'antisémitisme, qui a finalement dans les pays occupés le mieux protégé ses juifs, qui a d'ailleurs la communauté juive la plus importante d'Europe, parce que justement la société française, pas complètement, mais elle a beaucoup protégé ses juifs. Et les Français ne sont pas la majorité des Français n'est pas antisémite. Donc ça, c'est quelque chose, l'ambiguïté que crée Jean-Luc Mélenchon, qui a l'air finalement de défendre cette affiche et de ne pas arriver à la condamner, c'est pas quelque chose qui est bon pour lui. Hein. Mais par contre, la lâcheté des accords électoraux, je suis depuis 50 ans dans la vie politique, je dois dire que je la connais et que ce sera sauf qui peut pour garder les places, très probablement, s'il arrive arrive à résister à ce mouvement de fond, Jean-Luc Mélenchon, s'il n'est pas emporté par la vague, et qu'il arrive à faire un score convenable à la présidentielle, les gars se retourneront, les gars et les filles se tourneront vers lui, bien sûr.
Est-ce qu'il est en train d'être de plus en plus isolé à gauche, mais aussi au sein de la France insoumise, parce qu'effectivement, quand on voit cette semaine Manuel Bompard, Mathilde Panot, qui ont reconnu une erreur autour de cette affiche, contrairement à ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, on commence à s'interroger, peut-être, au sein de la France insoumise? Est-ce qu'il y a un mouvement qui va dans ce sens-là?
Ils ne peuvent rien faire sans lui. Vous imaginez Mathilde Panot, candidate de la France insoumise aux élections présidentielles? C'est pas sérieux.
C'est pas un propos un peu sexiste?
Manuel Bompard, pareil. La seule qui a une petite, un petit charisme, c'est Clémence Guettet, qui devrait d'ailleurs pourrait tenter une espèce de putsch générationnel, féministe, quelque chose comme ça au sein de la France insoumise. Je suis sûr d'ailleurs que ça la démange de le faire. J'observe ça. Je ne voterai jamais pour la France insoumise. J'observe ça. Je pense que malgré tout, on peut lui faire plein de reproches, et je souscris assez à ce qu'a dit Roselyne sur une ambiguïté insupportable, mais je pense que c'est un des seuls... Il n'y a plus grand monde en politique qui a du talent aujourd'hui. Il faut voir les choses comme elles sont. Il s'écoute parler un petit peu dans son meeting, Mélenchon. On le voit. Quand il baisse la voix, il s'approche, on est presque dans le théâtre. Mais il n'y a plus grand monde qui veut faire de la politique. Et donc, il n'y a plus grand monde qui a du talent en politique. Et encore moins de gens qui ont du charisme en politique.
Je crains
qu'à gauche, ils n'aient pas grand monde en magasin.
Vous en faites un peu trop, quand même. Périne vous a demandé d'être l'avocat.
Mais qui ferait un candidat crédible à gauche ou à l'extrême gauche aujourd'hui?
Non, mais sur
à part lui.
Le débat, Charles. C'est-à-dire que sous prétexte que on n'a pas le casting idéal, vous légitimez ces outrances.
Mais à droite, c'est pareil. C'est pareil à droite. Il y a très peu de gens aujourd'hui en politique qui ont le charisme nécessaire pour emporter les foules, parce que la politique maintenant fait peur.
Prime au comportement outrancier, quoi.
Non, j'accorde aucune prime. Moi, je vous dis ce qui marche et ce qui marche pas. Voilà, c'est tout.
Le jugement est quand même. Quand même extrêmement sévère à droite ou au centre, il y a des gens de qualité. Je pense que ce ne sont pas vos personnalités préférées, mais ne me dites pas qu'il n'y en a pas qui ont à la fois la culture politique, la capacité d'entraînement et la capacité d'adhésion.
À qui vous pensez?
Non, très simplement, je trouve que, évidemment, Bayrou, parce que je suis démocrate, mais je suis désolé, Édouard Philippe a une capacité d'entraînement.
C'est vrai.
Mais pas mieux le contraire. Darmanin est également quelqu'un, et Retailleau, d'ailleurs, ce qu'il fait là dans tout le boulot qui se passe avec l'Algérie, a démontré une vraie capacité.
Il y a peu de leaders qui s'imposent.
D'être intervenu à Versailles, juste après lui, après les attentats en 2015, parce que chaque président de groupe s'exprimait, j'avais vu un Retailleau pendant 15 minutes parler du terrorisme, parler de l'islamisme, parler des risques auxquels nous étions confrontés en France et en Europe. Ça veut dire aussi qu'il y a quand même une solidité derrière, que nul ne peut lui contester.
Non, mais je ne dis pas le contraire,
je comprends bien, mais... quand on voit la vacuité des propos de Trump, moi je suis assez impressionné. J'aime bien le regarder, Trump. Et j'aime bien regarder justement la portée de ses propos. Ses phrases sont extrêmement simples et compréhensibles par tout le monde, mais il n'y a rien. Si ce n'est que toujours pareil, les mêmes intérêts pour l'Amérique ou les intérêts financiers qui sont au cœur de toutes ces raisonnements et ces stratégies de conviction.
Mais écoutez, mais très bien, c'est-à-dire que... Vous pouvez
sentez mou du genou.
M'expliquer que Bayrou est quelqu'un de plus charismatique que quelqu'un qui s'est fait élire deux fois président des États-Unis, je pense qu'il y a un léger problème de lucidité. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'il y a des gens de qualité. C'est intéressant d'ailleurs. C'est intéressant.
Ils remettent un peu C'est vrai
qu'on a des gens de qualité, mais néanmoins, il n'y a pas quand même de figure qui, comme il pouvait y en avoir il n'y a encore pas si longtemps, s'imposait naturellement. C'est-à-dire qu'on a Il n'y a pas quelqu'un qui supplante les autres.
Voilà. Enfin, c'est qui pouvait penser que François Hollande devienne président de la République?
Effectivement.
On va s'arrêter là. Non, mais ça, c'est le début de la fin.
Alors, on va s'arrêter sur cet argument.
C'était le début de la fin, vous avez tout à fait raison.
Merci beaucoup, Philippe Vigier, d'avoir
Charles
été notre
du mal à récupérer vos honoraires de Mélenchon.
Ce soir. Et merci à vous.
Je ne suis pas sûr que ce soit très généreux.
Franck Boisise.